Je disais qu'on a reçu une mitzvah de définir le temps, définir le calendrier. C'est nous qui avons cette mitzvah de dire quand commence chaque mois. Alors les témoins vont venir témoigner à Yerushalayim, au Sanhedrin, et le président du Sanhedrin va déclarer, après avoir examiné les témoins, etc., que le nouveau mois est commencé. Donc, c'est une forme de maîtrise du temps, alors que la caractéristique d'un esclave, c'est qu'il n'est pas maître de son temps. Un esclave, essentiellement, surtout les esclaves vus, un esclave dans la façon dont on le voit dans la Torah, c'est-à-dire c'est pas l'esclavage de grec ni l'esclavage des Noirs d'Amérique, etc. Il y a toutes sortes de lois qui qui nous disent exactement qu'est-ce qu'on peut demander à un esclave, que ce soit un Eved Ivri ou un Eved Daniel. En tout cas, on nous a donné cette mitzvah-là qui est vraiment le contraire de l'esclavage, cette maîtrise du temps. Et cette idée d'avoir la maîtrise du temps, c'est quelque chose qui est absolument incompréhensible et incompatible avec la vision du monde des Grecs, par exemple. C'est la raison pour laquelle les Grecs nous ont interdit de faire Rosh Chodesh. Qu'est-ce qu'on a fait à Rosh Chodesh? On n'a pas le droit de pratiquer Rosh Chodesh. Qu'est-ce qu'on fait à Rosh Chodesh? On apporte un corban. Ils n'ont pas interdit les corbanotes. Mais c'est tout ce qui se passe à Rosh Chodesh. Ils ne voulaient pas. Pourquoi? Parce que l'idée même qu'on puisse être maître du temps, c'est une idée qui n'entre pas dans la tête d'un grec. Un grec, le temps, c'est au contraire un truc qui vous tombe dessus, auquel on ne peut pas échapper. À dire que cette folie de dire qu'on est le maître du temps, c'est un truc que les goyim ne supportent pas en particulier. Donc, on est mekadesh le temps. Mais le Yerushalmi dans Maseret Rosh Hashanah, il dit de Ematai. Quand est-ce que les Bnei Israël sont le Kadesh, le temps, que Shem Kedoshim? C'est marqué Kedoshim Tiyu, c'est Samouk la Arayot. Dans la parasha de Kedoshim Tiyu, le Samouk à la parasha de Arayot. Il y a une parasha de Arayot dans Harimot et une autre dans Kedoshim. L'une pour les interdits, l'autre pour les Onshim. Et donc, on a cette bracha que Rashi ramène. Chez Kol Makom, chez Atamotse Geder Erva, Atamotse Gdusha. Bon, ça veut dire que c'est quoi la Gdusha? C'est quand il y a un Geder de Erva. C'est-à-dire que quand on s'est mis des restrictions quant aux relations sexuelles qu'on peut avoir. Tout n'est pas permis. Et dans la mesure où on a là ce degré de Gdusha, Gdolim Mimalachia Sharet. On est plus grand, les Bnei Israël sont plus grands que les Malachia Sharet, que les anges de service, puisque c'est marqué, on a deux Gdushot, c'est marqué Veit Kadishtem. Vous vous sanctifierez, vous, c'est à nous, nous sanctifier tout seul par le Geder de Arayot. Veitem Kedoshim. Et Hachem fera en sorte qu'il nous donnera de la Kedusha. Donc, on est deux fois Kadosh, donc c'est plus grand que les Malachim. Et donc, on dit, quand est-ce que les Bnei Israël sont capables d'être Mekadesh le temps? C'est seulement si eux sont capables d'avoir de la Kedusha. Imem Mekachim et Atzman, alors, dit le Yerushalmi, alors ils peuvent vraiment être Mekadesh le temps. Kshayu Gdurim Mina Rayot Bemitzraim, Et on avait dit que une des quatre choses par lesquelles les Bnei Israël se sont néanmoins distingués des Égyptiens, ils étaient, c'est vrai, ils étaient idolâtres, mais il y avait, ils ont gardé leur nom, ils ont gardé leur langue, ils n'ont pas dit de lashon hara les uns contre les autres, et ils ont été gdourim dans les problèmes d'Arayot. Donc, ils ont 7 degrés de Kdusha. Donc, ils ont préservé ça, et c'était difficile à préserver dans la mesure où Mitzrayim, c'était vraiment un pays dans lequel, justement, sur ce sujet des Arayot, ils étaient vraiment très laxistes. Donc, Otseti, comment est-ce que j'ai pu, ben, comment est-ce que Otseti, c'est possible, chez Imloken, Eriachol Leotsi, Bnei Nochit Kemota. Si les Bnei Israël font pas attention, donc s'ils avaient eu des relations avec des Goyot, ben, l'enfant d'une Goya, c'est un Goy. Donc, si les Bnei Israël étaient complètement indiscernables, parce que l'enfant, il appartient vraiment, donc les Bnei Israël seraient devenus des goïms, quoi. Tu vois, avec ce genre de mariage, comme c'était le cas en grande partie dans le monde du Baït Chéni, on a dû exclure pas mal de gens, parce que c'était des goïms en vérité. Et donc, ils sont appelés Kedoshim, dans ce cas-là, Emekachim Azman. Mekaché. Donc, ils vont pouvoir être Mekadesh le temps dans la mesure où eux-mêmes deviennent Kedoshim.
Le fait que les Israéliens gardent ces quatre choses-là, ça montre un discernement.
Ça montre une différence entre eux, malgré l'idolâtrie, quoi.
Et comment on explique le Vot City à maintenant? Parce que
Le?
le Vot City, du début, on avait dit c'est la chaîne qui sait faire un discernement des Israéliens.
Oui, mais
Et
parce qu'il
là.
faut quand même qu'ils ont, eux, ils ont, parce que eux ont marqué une certaine différence, bien que ils étaient harélim, ils avaient des blourites, etc. Tout ça, c'est vrai, mais il y avait quand même des points. Ils ont gardé leur nom et leur langue. Et bon, c'est fondamental. C'est quelque part, on va voir. Ensuite, Vitsalti, c'est le deuxième lachon, mais il correspond au troisième vers. Le deuxième lachon ne correspond pas au deuxième vers, mais au troisième vers. Le troisième vers, c'est le vers qu'on boit après Birkat Hamazon, après le repas. Il y a donc Birkat Hamazon, et à ce moment-là, on boit le troisième vers. Itzalti, on avait vu, c'est sauver quelqu'un des mains de quelqu'un qui veut le tuer. Donc Hachem nous a sauvés en sortant d'Égypte, nous sauve des mains des goïms qui veulent nous tuer. Mais si les Bnei Israël eux-mêmes voulaient se faisaient du mal les uns aux autres, ben ça n'aurait pas marché. Alors on dit chez Shelo gilu mistorin chez que les Bnei Israël n'ont pas dévoilé leur secret, en quelque sorte, pardon, dévoilé, c'est une des quatre qualités pour lesquelles ils ont effectivement été sauvés. Comme là, c'est une Mechilta qui dit, Rabbi Lezer Akadar dit, Vechilo haya beyadam shel Israël, arba mitzvot, shen kol haolam kedai bahem. Est-ce qu'ils n'avaient pas quatre mitzvot Chaque mitzvah, elle vaut le monde entier. Donc, pourquoi ils n'ont pas fait quatre mitzvot simplement? Mais on dit non, on dit chez l'eau, on dit ils avaient des qualités, ce n'étaient pas des mitzvot en tant que telles. Chez l'eau, nerchedou à la harayot, chez l'eau à la shonara, comme on a dit. Ils n'ont ni changé ni leur nom, ni leur langue. D'après ce que dit le Meshech Chokhma, on a vu que Vohotseti, ça correspond, ils n'étaient pas soupçonnables, ils sont bien conduits dans le problème de Harayot. Il y a un Goudourim de Harayot, c'est ce qu'on vient de voir. Mais il salti, ça va, Keneged, la Shonara. La Shonara, c'est la même chose, c'est en fait casser les relations, c'est-à-dire vouloir tuer le peuple, quelque part. La Shonara, c'est ça tue les relations, et donc il n'y a plus de peuple, parce qu'il n'y a plus de relations entre les gens. Donc, Veit Salti, on pouvait les sauver de ceux qui veulent les tuer, si eux-mêmes ne se tuent pas tout seuls, en quelque sorte. Alors, il explique. Ok, alors qu'est-ce que ça a à voir avec le troisième cause qui est le cause de Birkat Hamazon? C'est, il n'y a pas eu de malchinout, il y a pas, ils ne sont pas dénoncés les uns les autres, etc. D'une part, parce que en fait, quand il y a du lachonara, au fond, ça vient d'un manque d'émouna. C'est un manque d'émouna dans la Hashgaha, c'est-à-dire que on pense que pour pouvoir m'épanouir, j'ai besoin de descendre l'autre, quoi. Si je descends pas l'autre, alors j'arrive, j'ai l'impression que je pouvais pas. Donc ça veut dire, tu penses que c'est pas Hachem qui dirige le monde, quoi. Pas Hachem qui dit qui est qui et qu'est-ce qu'on peut être, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Donc c'est un manque d'émouna dans une Hashgaha, dans une providence qui s'occupe de chacun. Et d'autre part, c'est aussi un manque de ce qu'on appelle istabkut, c'est-à-dire c'est cette idée de dire de la chaîne de l'eau, je n'aurai de l'autre, c'est pour abaisser l'autre, pour en avoir plus pour moi. Donc je ne me satisfais pas de ma condition, je veux absolument avoir autre chose. Donc c'est un manque. Dans la istaku, dans la bonne mida qui consiste à être, à se contenter de ce qu'on a, si on peut parler. Ça ne veut pas du tout dire être passif, ne pas vouloir plus spirituellement, mais se contenter, voilà, de ce qu'on a. On n'est pas sans arrêt, c'est en train de chercher à avoir, donne-moi plus. Or, le Birkat Hamazon, dans la bracha les brachot de Birkat Hamazon, c'est que, on exprime que premièrement, je reconnais que Hachem nourrit chacun, Azan et Paolam Kulo, Hachem nourrit chacun dans le monde, d'une part, et d'autre part, on se contente de peu, puisque au sujet du Birkat Hamazon, normalement, d'où est-ce qu'on sait qu'il faut faire Birkat Hamazon? C'est écrit dans le deuxième paragraphe du Shema, Ve'achalta, Ve'savata, Uverarta. Ça veut dire, tu mangeras, tu seras rassasié, tu rassasieras, et tu feras la bracha, Birkat Hamazon. Donc, c'est mashma, que le Birkat Hamazon, il est vraiment dû, Minatora, seulement si on est rassasié. C'est marqué dans la Gemara que Akadosh Baruch Hu, il dit pourquoi est-ce que je leur donnerai pas plus, etc. Puisque eux, moi, je leur ai demandé d'exprimer leur reconnaissance pour ce qu'ils ont reçu à manger, etc. Quand ils sont rassasiés, et eux, ils ont été marmis, hein. Ils ont pris sur eux de faire le Birkat Hamazon pour un Kesait. C'est-à-dire que même si on mangeait seulement la grosseur d'une olive, même grosse olive, de pain, je prends Birkat Amazon. Donc, c'est difficile d'imaginer qu'on est rassasié. Il se considère comme rassasié avec un tout petit morceau de pain, en fait. Et donc, ça veut dire qu'il se contente de peu. Contente, voilà, j'ai seulement ça. C'est un peu le guéder de Rabbi Akiva qui dit, Assez Shabbat Chol, Val Tistaer la Briot. Nous, on pense que l'alakha, elle est que quand on ramasse de l'argent, ou quand on ramasse de la nourriture pour la redistribuer, on doit donner aux gens de quoi faire trois seudot Shabbat. Et Rabbi Akiva, il pense, plutôt que d'avoir recours à la tzedaka, de recevoir des autres, vaut mieux assez Shabbat Kachot, c'est-à-dire mange seulement deux repas et mange un morceau de pain, etc., plutôt que d'emprunter de l'argent, enfin, c'est pas emprunter, mais plutôt que de demander de l'argent à la caisse de tzedaka. Ça, c'est Rabbi Akiva, c'est l'extrême. La halakha, elle est pas, on dit pas aux gens, il faut faire comme ça. Rabbi Akiva, lui, il dit comme ça. Mais on a fait une caisse de tzedaka pour justement donner aux gens trois repas du Shabbat. Mais donc, ça veut dire que la hystapkout, se contenter de ce qu'on a, en tout cas matériellement, c'est une grande chose. C'est être capable, c'est. Il faut arriver à le faire sans que ça vous empêche d'étudier ou de réfléchir ou de faire des mitzvot comme il faut les faire. Donc, le Vitzalti, ça correspond au troisième cos, le cos de Birkat Amazon. Régalti, vous libérerez. En fait, ça veut dire que la morale considère qu'un Eved, il a d'une certaine manière, moralement ou spirituellement, il n'a pas un super haut niveau. Eved, c'est quelqu'un qui est assez ras des pâquerettes, quoi, spirituellement. Au point que la Gemara, elle dit, les Chachamim, ils ont dit, Chovu la Eved, Shiaseh ben Chorin. Parce que Zilale, Shrichale. Ze mitzad she'eno margish, Yachasavotav. Et le Eved, il n'a pas de Yichus. Un Eved, c'est quelqu'un qui, d'une certaine manière, pour lui, la liberté, c'est pas obligatoirement une bonne chose. Parce que, bon, le Eved, c'est quelqu'un qui, souvent, il se complaît dans la situation où il n'a aucune responsabilité. Un Eved, même, prenez un Eved ivri, quelqu'un qui a aucune responsabilité pendant tout le temps où il est Eved, toute la famille est prise par le maître du Eved, la famille est prise en charge, mais elle ne travaille pas. La femme, les enfants, ils ne travaillent pas. Ils sont nourris, logés, blanchis chez le maître. Et lui, il travaille. Il fait pas, il y a toutes sortes de restrictions quant au travail qu'on peut lui imposer. Ouais, c'est vrai, il me semble que la chose la plus problématique qu'il y a quand, du point de vue de l'Eved, c'est que si c'est un Eved qui est marié, son maître, il peut lui donner une esclave cananéenne comme épouse. Enfin, c'est-à-dire, il va le mettre à disposition. Alors, c'est pas très clair, est-ce qu'il peut l'obliger, etc. Mais bon, en tout cas, l'esclave, il va travailler de nuit aussi, quoi. Il va travailler, il va produire des petits esclaves. Bon, il aura des rapports avec cette servante. Qui sont évidemment, les enfants ne sont pas ses enfants à lui, ce sont des enfants qui sont esclaves, ils sont esclaves du propriétaire, de la chifra, son propriétaire à lui aussi d'ailleurs. Et on voit très bien que c'est problématique, puisque lorsque on envisage qu'un évêque dise « j'ai pas envie de », au bout de la septième année, normalement il sort, il est libre, et lui il dit « mais moi je préfère repiquer ». Préfère rester évêque. Et il donne comme argument qu'il aime bien son maître et qu'il aime bien sa femme. Quand on y regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit que la femme dont il dit qu'il aime bien, c'est pas sa femme, c'est la servante. Parce que sa femme, si lui, il était libre, ben, il serait partir avec son épouse. Mais maintenant, il dit, j'aime bien ma femme, j'aime bien les enfants. C'est les petits esclaves qu'il a eu avec la femme, avec l'esclave. Donc, on voit très bien que c'est un peu compliqué. Ça, quelque part, dans son travail, c'est un travail un peu risqué parce que ça peut mettre en déséquilibre son couple, Birla. Je ne sais pas comment, ce que doit penser sa femme quand elle entend que son mari dit qu'il veut rester esclave. Pour pouvoir rester auprès de la servante avec laquelle il passe une certaine nuit, en tout cas. C'est un peu compliqué. Donc, mais pour le reste, c'est quelqu'un qui, a priori, en plus de la responsabilité. Et avec Nani, il est complètement irresponsable. Lui aussi. Donc, quelque part, un Eved, quand on lui parle de liberté, c'est pas sûr qu'il va se précipiter pour rechercher la liberté. Alors, lui, il dit, la raison pour laquelle il se précipite pas, c'est que Eino Margish, le Ichut Avotav, c'est-à-dire, un Eved, c'est quelqu'un qui n'a pas de... Alors, du coup, on parle d'avec Dani. C'est quelqu'un qui n'a pas de lien de parenté avec ses parents, puisque quand il est... Les parents, ils appartiennent eux-mêmes, ils étaient aussi évêques. Si lui, il est évêque, c'est que... Avec Dani, c'est qu'a priori, disons, en gros, en général, ses parents étaient avadim aussi, ou que lui, il a été fait prisonnier et coupé de toute sa famille. Donc, il n'a pas... Il se rattache à rien. Et donc, puisqu'il se rattache à rien, il a aucune responsabilité, il répond rien. Nous, on est obligé de, il faut répondre de, je réponds de ce qui m'a été légué, quoi. Quelque part, on m'a donné quelque chose, qui vient de directement ou indirectement, ou d'une manière ou d'une autre, jusqu'à moi. Et donc, ça fonde d'une certaine manière une certaine responsabilité. Donc, il dit, comme lui, il n'a pas de lien du tout avec ses ancêtres. Il n'a pas de. Il se sent pas responsable, quelque part. Il répond de rien. Alors maintenant, ce troisième verset, quand au deuxième cause. Deuxième cause, c'est le cause qu'on voit après avoir dit les deux premiers chapitres du Hallel. Le deuxième étant Betzet Israël et Mitzrayim. D'accord? Quand il y a libération, Galtis à libération, libération, c'est l'explosion de joie de la libération. Et l'explosion de joie, c'est l'expression de sa reconnaissance. Ça, c'est le Hallel qu'on dit, qu'on commence à dire les deux premiers chapitres du Hallel. qu'on dit à ce moment. Et après avoir dit ces deux premiers chapitres, on boit le deuxième kos. Donc, ce deuxième kos, il vient pour justement sur notre appartenance au peuple, c'est-à-dire le souvenir de cette libération. Donc, on boit, nous buvons en souvenir et on se réjouit en souvenir de du côté libératoire, enfin la libération qu'il y a eu après ça. C'est le troisième verset pour le deuxième vers. Et la quartier tremli le ham, zé shiloshinu et le shonam. Donc, ah oui, excusez-moi, j'ai pas dit sur le Gaalti, ils n'ont pas changé leur nom. Donc, garder son nom, c'est faire son lien avec, on s'appelle Toto Ben Machin. Donc, quelque part, c'est le Yirous. Et donc, la quartier Tremli Leham, c'est, ils n'ont pas changé leur langue. Si on ne change pas la langue, ça veut dire qu'on pense qu'il viendra un jour où on va parler cette langue. Si on sait que définitivement, on va être dans ce pays-là, on n'a plus besoin de continuer de parler la vieille langue, quelque part. Donc, voilà, on parlera plus cette langue, parce que maintenant, voilà, on entre dans une nouvelle phase. C'était un des problèmes qu'il y avait au moment de la fondation de l'État, que les sionistes, ils voulaient pas parler, ils voulaient, qui venaient de Russie ou de Pologne, qui parlaient yiddish, en fait. Ils méprisaient complètement le yiddish, ils voulaient plus parler yiddish, puisque maintenant on est dans un nouveau pays, etc. On parlait la langue de ce pays, qui est pas la langue ancienne. Donc, ils ont coupé avec la langue ancienne. Donc, eux, ils ont justement, au contraire, gardé la langue ancienne. Ça voulait dire qu'ils avaient un espoir que cette situation qui est leur situation ancienne allait revivre, en fait. Et donc, c'est cette gueule-là vraiment complète. On parle ici de la Géoula finale, en même temps, c'est à la fois la Géoula de Mitzrayim qui est bon, mais c'est la Géoula finale. Enfin, on va être complètement libéré, retrouver en fait une autonomie, etc. Et d'où est-ce qu'on apprend qu'il faut avoir confiance dans le futur, sur quoi ils se sont basés, les Bnei Israël? Ils ont appris ça, a priori, de Yosef. Yosef, même quand il était vice-roi d'Égypte, quand il se dévoile à ses frères, il leur dit, parce qu'ils n'étaient pas sûrs qu'ils ne le reconnaissaient pas, parce que lui, il l'avait quitté, il avait 17 ans, et maintenant il est là, en plus, il a une barbe, etc., puis il est déguisé probablement comme un roi égyptien, donc pas facile à reconnaître. Et donc, il a donné des signes comme quoi c'était lui, Yosef. Et une des choses qu'il a dites, c'est qu'il prie Abdaber. Vous entendez bien que je parle votre langue, je parle notre langue. Donc, on voit que, bon, il a continué de parler hébreu, ou il a, avec ses enfants, en cachette, ou je sais pas comment il a fait. Certainement, il a parlé hébreu avec ses enfants, puisque on dit que il avait mis un Lashana Kodesh, c'est pas hébreu, excusez-moi. C'est le Lashana Kodesh. Parce que le traducteur qu'il avait mis entre lui et les Bnei Israël, le traducteur, c'est son fils Menaché. Ça veut dire que Menaché, il connaissait à la fois les Lashana Kodesh pour comprendre ce que disaient les frères de Yosef, qui parlaient entre Lashana Kodesh. Et l'Égyptien, donc, il pouvait faire la traduction. Voilà, donc, ce Hallel, la deuxième partie du Hallel, c'est ça parle de l'indépendance de la nation Israël à venir. En fait. On dit, Minametsar, Karati, j'étais dans Israël, mais tu m'as sorti. Voilà, ça c'est donc les Arba Kossot comme correspondant aux Arba Lechenot de Geoula. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on a fait ça avec du vin? Parce que d'une certaine manière, le vin, il représente notre singular, le fait que on ne peut pas se mélanger avec, c'est avec les interdits sur le vin qu'on ne peut pas se mélanger. Ça a été fait pour ne pas pouvoir se mélanger avec les Omota Olam, puisqu'on ne peut pas faire, de smachot avec eux. Et donc, comme eux, ils se sont séparés, malgré tout, malgré l'idolâtrie, etc., ils sont quand même séparés, comme on a vu, des Égyptiens. Alors, le vin qui représente la séparation, c'est sur le vin qu'on a fait, c'est en buvant du vin qu'on a voulu rendre compte ou importer quelque chose le soir du Seder qui reflète donc les Arba Lechonot shel Geoula. On sait bien que le vin, c'est ce qui marque la Havdala entre les Bnei Israël et les Omot HaOlam. Donc voilà ce que dit le Mesher HaChokhma sur ces Arba Lechonot de Geoula. Alors, je voudrais voir avec vous ce Rashi dit sur au tout début, je reviens sur Hachem avait dit il a dit à Moshe Rabbeinu que je me suis fait connaître par les avot uniquement Bekel Shakai, avec mon nom de Shakai. Rashi dit, Bekel Shakai, Rashi dit, Iftartim Aftachot, ou Bekulon Amarti Lahem, Ani Kel Shakai. Donc, je me suis fait connaître à eux, je leur fais des promesses, simplement, et dans toutes ces promesses, je leur ai toujours dit, Ani Kel Shakai. C'est ça le nom que je leur ai donné au moment où je leur donne je fais des promesses. Mais ensuite, Ushmi Hashem, lo hodati la. Lo hodati enktiv. C'est pas marqué, je ne leur ai pas dit, donné ce nom-là. Et là, lo nodati, c'est-à-dire lo nikarti laem, imidat amitut sheli. Je me suis pas fait connaître par ma vérité qui est que j'accomplis les promesses que je fais. Mais je me suis pas fait connaître mon nom de Hachem, ça veut dire Neeman la Met Dvaray. On peut me faire confiance, je rends vrai mes promesses, en fait, mes paroles. J'arrive tarti, v'lo kiyamti. Donc ils m'ont jamais connu sous le nom de Hachem parce que j'ai pas accompli les promesses que j'avais faites, ben ils ne pouvaient pas me connaître. Alors je vais voir avec vous ce que dit Rav Volbe là-dessus. Il y a une machloket sur ce qui s'appelle Shvuat Sheker. Qu'est-ce qui s'appelle un serment mensonger. On dit, c'est sur le passé, c'est-à-dire il dit, achalti, je jure que j'ai mangé telle et telle chose, ou bien dire, je jure que j'ai pas mangé, ou bien sur le futur, Ochel, je mangerai, ou bien je ne mangerai pas. Donc ça, c'est Sheker. Anachnou mevinim, on comprend. On comprend ce que, sur le passé, c'est une choix de Sheker. Puisqu'il sait très bien, est-ce qu'il a mangé ou est-ce qu'il n'a pas mangé. Donc s'il dit j'ai mangé alors qu'il n'a pas mangé, ou j'ai pas mangé alors qu'il a mangé, il sait très bien, il est en train de dire un mensonge. Mais, s'il jure qu'il mangera, et finalement, il n'a pas mangé, c'est un mensonge. C'est pas un mensonge. Donc, c'est considéré comme un choix de Sheker. Donc, a priori, nous, on n'aurait pas dit que c'est un mensonge. Il n'a pas tenu sa parole, mais c'est pas un mensonge. Il n'est pas en train de dire, quand il a parlé, il n'était pas du tout en train de dénoncer un mensonge. Il a dit, je mangerai. Si ça se trouve, il avait l'intention de manger, peu importe, mais. Donc, on voit que la notion de mensonge, c'est l'amdavka, si on change quelque chose de connu. C'est-à-dire, on appelle mensonge quelque chose qui n'est pas encore connu. La filou iftiach davar velokiem, si on a promis et on n'accomplit pas, c'est aussi sheker. Un ish emet, un homme de vérité, c'est quelqu'un qui, quand il promet, il tient la promesse. C'est comme ça que Rashi explique tout le temps la notion de sheker. Emet, c'est tenir sa parole. Dans Parshat Yitro, quand on choisit des juges, on dit tu choisiras un Shemet. On dit c'est les gens qui promettent, les gens qui promettent et qui vont tenir. Et donc concernant Hachem, c'est aussi Emet, c'est qu'il tient sa parole. Je suis un Dieu qui tient sa parole. Mais on voit très bien que il y a un nom divin spécifique pour dire promesse indépendamment du fait si on va la tenir ou pas. Et puis, il y a un autre nom pour le kiyum. C'est-à-dire, il y a un nom pour les promesses qui est le shakai et un nom pour l'accomplissement des promesses qui est le tétragramme. Le problème, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un nom divin pour les promesses et un autre nom divin pour l'accomplissement de la promesse? A priori, c'est la même chose, non? On est donc obligé de comprendre qu'il y a une façon de gouverner le monde pour Akadosh Baruch Hu qui est de promettre. C'est une hanaga, c'est une façon de gouverner le monde sous forme de promesse. C'est Hachem, je te promets. Et comme c'est Hachem qui promet, ça a déjà une valeur en soi. Peu importe que ça se réalise ou pas. Le fait qu'Hachem me promette quelque chose, venant d'Hachem, ça a déjà une valeur. C'est ça que le nom vient nous dire ici. Et donc, les Avot, ils étaient dans cette gouvernance du monde où Hachem ne fait que promettre sans réaliser les choses. Et à Moshe Rabbeinu, avec Moshe Rabbeinu, à Kadosh Baruch Hu dit, on commence la phase réalisation des promesses. Ça, c'est un autre nom, c'est le tétragramme. Donc on est bien obligé de comprendre que Akadosh Baruch Hu promet et que on doit faire confiance que finalement arrivera une période de réalisation. Et c'est une autre période, c'est pas la suite de, c'est une autre période. Puis ça a même, c'est un autre nom divin. Donc c'est, chaque nom divin, comme je vous ai dit, c'est chaque nom correspond à une façon de gouverner. Donc il y a une façon de vivre avec une promesse d'Hachem, ça fait chaud. Hachem m'a promis quelque chose, Ça fait déjà chaud en soi. Pas quelque chose que pour une promesse de quelqu'un, que, tant que ce n'est pas réalisé, d'accord. Mais une promesse d'Hachem, semble-t-il, c'est ça qui fait remarquer, qui est intéressant. En fait, dans les actions humaines, c'est aussi un peu comme ça. L'homme vit ici et il accomplit Torah et Mitzvot. Il vit avec une promesse. Il ne voit pas obligatoirement la réalisation des promesses. La promesse que Hachem lui dit, voilà, tu fais des mitzvot, et il y a une promesse qu'il y a un sahar, il y a un salaire pour les mitzvot. Mais le salaire, il n'est pas dans ce monde. Donc ça veut dire, on vit dans un monde dans lequel il n'y a que des promesses. Simplement, dans un changement de monde, il y aura la réalisation. Mais dans ce monde-ci, si vous voulez, c'est comme si on disait, la réalisation de la promesse, elle est transcendante par rapport au monde. Dans l'immanence de ce monde, il n'y a pas de réalisation des promesses. C'est la même chose sur les sanctions aussi. Quelqu'un, il est Mechalel Hachem, Chas v'Shalom, il ne voit pas ici obligatoirement la sanction. Mais on a une promesse qu'il y aura une sanction. La Tidlavo dans le futur, voilà, c'est une nouvelle anaga, une nouvelle façon de conduire le monde, dans laquelle il y aura la réalisation de la promesse, c'est-à-dire la sanction. D'une certaine manière, ça veut dire que on doit apprendre à vivre avec des promesses. Vivre avec la promesse elle-même, voilà, on vit avec des promesses sans qu'il y ait de réalisation de la promesse. Parce que dans le monde dans lequel on est, il n'y a que des promesses. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire vivre avec la promesse? C'est Emouna. J'ai confiance. Vraiment une confiance. Parce que dans ce monde-ci, on ne voit pas la réalisation. Donc c'est une éducation à la confiance, si on peut parler comme ça. Ça deviendra émettre, mais pas dans ce monde. C'est pour ça qu'il y a la leçon, en quelque sorte, qui est faite à Moshe Rabbeinu, c'est qu'il existe deux façons de gouverner le monde, qui donnent lieu donc à deux noms divins, Shakai et Tetragram. Le Rambam dit la chose suivante. Le Rambam dit, « Ve'achacham Rabbi Abraham » il parle ici de Rabbi Abraham ibn Ezra, Piresh, qui le bet de Bekel Shakai dans le texte dit voilà, je me suis fait connaître, vous avez le verset devant vous, vous avez le verset Gimel. Voera el Avraham, el Yitzhak, el Yaakov, Bekel Shakai. Alors, ce bête-là, Rabbi Avraham ibn Ezra, il a dit que ce bête ici, il faut l'entendre de la manière suivante, Vaera el Avraham, etc., Bekel Shakai, ou Bishmi Hashem l'onodatilaem, c'est-à-dire, le verset vient dire que les Avot, au Avot, je me suis montré avec ce nom-là. C'est un nom là qui est avec lequel je fais des miracles, je chamboule le monde. D'accord? Mais c'est-à-dire, je détruis pas complètement le monde, mais Berav Padaotam Mimavet, ou Milchama, Mi les a protégés de la mort par famine et, ou de la mort par, par le glaive, avec la, durant la guerre. La tête la aime, Osher de Chavod, de Kol Tova. Les Avot, ils ont reçu Osher, Kavod, Tova, ils sont devenus riches, ils ont eu des honneurs, etc. Tout ce qu'il y a dans la Torah comme, comme Brachot et Klalot. Mais tout ça, ça vient pas comme Sahar de Mitzvah ou comme on neige sur des Averot. Ça, Zerak de Maaseh Anes. Ah ben, Sahar, Kola Torah ve Onsha, Baolam Azeh, Akol Nissim, Vem Nistarim même. L'Ichashev Bahem, le Roim Sheu Minago Shel Olam, Vem Badam, Odam, Onesh ve Sahar Behemet. C'est-à-dire, bien que le salaire des mitzvot, le vrai salaire, il n'a lieu que dans l'Olam HaBa, mais finalement, dans l'Olam HaZeh, il existe malgré tout une façon de gouverner le monde qui fait en sorte que l'homme, on va décider dans ce monde-ci, est-ce que l'homme aura ou n'aura pas l'Olam HaBa? Ce qu'Hachem fait en sorte que les Rechaïm reçoivent leur salaire dans ce monde-ci, c'est un S, Nistar, c'est un S. Nes, ça veut dire que ça n'appartient pas au monde. Un Nes, c'est un hors le monde, c'est hors cadre, en fait. De même, Maché Adam Ochel Perotem, Shel Mitzvot, Ben Adam le Chavero, Ben Olamazé, Gamze Nes. Ça veut dire que quand on dit les petits cadeaux, comment est-ce qu'ils ont entraîne l'amitié, ou comment ça s'appelle, ouais, quelque chose comme ça. Pourquoi ça marche? C'est un S. C'est un S Nistar. Ça veut dire, c'est un S qui dit pas son nom. Nous, on a l'impression que, ouais, c'est normal. Mais en réalité, quand tu regardes, c'est un S puisque le vrai salaire, c'est seulement dans le Mabal. Alors, pourquoi on le reçoit ici? C'est un miracle. C'est pas de l'ordre du monde. Et le Ramban continue. Ça, c'est une citation qu'il a faite de Rabbi Avraham Ibn Ezra. Il dit, Umipneze, Tarikh HaTorah beYehudim sheBeOlam HaZeh. V'lo tva'er Yehudei HaNefesh beOlam HaNeshamot. Ça, c'est Ramban. Pour cette raison-là, la Torah, elle parle longuement des choses qu'on reçoit dans ce monde-ci. Si tu fais ça, du Bishamim Beitam, etc., vous avez. Et elle ne parle pas du tout de ce qu'il y aura pour le Nefashot dans le monde des âmes, le salaire dans le monde des âmes, dans le monde de Atid Lavo. Et elle est moftim chez Keneged Tolada, le Kiyum HaNefesh, le Kabe Elohim, ou d'avoir Raoui de Toldata. Shi Tashuv et la Elohim, Asher Netana. Ça veut dire, le Ibn Ezra, il explique pourquoi la Torah, elle parle toujours de Sahar dans le Olam HaZeh. Il dit tout le temps qu'il n'y en a pas. Et la Torah, elle n'arrête pas de parler de salaire dans l'Olam HaZeh. Il dit chaque fois, celui-là, il a eu ce salaire, etc. Ibn, chez Sahar, Veonesh, Ben Olam HaZeh, ça vient toujours sous forme de nes. Si l'homme fonctionnait uniquement selon les règles de la nature, en fait, l'oyamakom lo le sra velo le onesh. Il n'y a pas. Si c'est naturel, alors tu ne mérites pas un sakar. Si c'est ta nature de faire comme ça, c'est la nature, alors bon, on va pas récompenser quelqu'un parce que c'est sa nature. Srarve Onesh, dans l'Amazon, c'est toujours un S. Ça n'a pas de raison d'être. Shakadosh Boku Manig et Adam Omnam Beterer Tivit, ça veut dire Akadosh Boku, il dirige l'homme de façon naturelle, Bli Ishbor Tivim, sans casser les règles de la nature. Aval Etsema Anaga Ines, mais en fait, ça a l'air d'être, voilà, fonctionne selon les règles de la nature. Mais en fait, c'est un S qui ne dit pas son nom. Shim hu mitnaeg tov, az im bechukotai telechu, venatatigish mekre beitam, si vous conduisiez bien, vous aurez la pluie en leur temps, etc. C'est un S tout ça. Aval nes betoch derech hateva. C'est un S durant, enfin, qui se présente comme c'est une loi de la nature. Al-Sahar be'olam haba, Torah lo mdaberet. Le salaire dans l'Olam Haba, la Torah n'en parle pas du tout. Parce que ça, c'est évident. Ça, c'est évident. C'est évident qu'il y aura une récompense et que la récompense, elle a lieu dans le monde qui a été fabriqué pour la récompense. Comme le Siyat Tesharim a dit, Hachem, il a créé un monde pour la jouissance de l'homme. C'est quoi? C'est l'Olam Haba. Ah, mais pour que la jouissance soit complète, alors il y a l'Olam Hazé dans lequel on se qualifie pour l'Olam Haba. Pshanefesh tashuvela Elokim, quand l'âme retourne auprès d'Elokim, qui a mis cette âme dans le monde, Akadosh Baruch Hu noten la, sham Hashem agia lanefesh. Évidemment, Hashem va lui donner ce qui revient à l'âme. Aval po ba'olam, po yesh sachar mefurash. כדי להראות לנו שכל ההנהגה שלנו בעולם הזה היא בדרך נס. אבל נס נסתר. Ça vient nous montrer que tout ce qui se passe dans le monde, dans ce monde-ci, ça se passe de façon miraculeuse, c'est-à-dire ça n'a pas de raison d'être, donc d'une certaine manière, ça ne peut pas s'expliquer à les règles de la nature. À ces règles de la nature, il n'y a pas de notion de srar ve'onesh. Mais le Nes, il est Nes Nistar. Il y a des Nissim Mugulim, il y a des Nissim visibles. Donc, Hachem va fendre les Makot, c'est des Nissim visibles. Mais les Nissim de Sarvonesh, le Gishmechem Beitam, etc., tout ça, c'est des Nissim Nistarim. Donc, le Ramban dit à Moshe Rabbeinu, je me suis dévoilé au Avot, de quoi il a dit Asher Ani Shoded Bo Amazalot, c'est-à-dire Shakai, ça veut dire je dirige complètement le monde, le cosmos en fait. Veozer Liprirai, et j'aide ceux que j'ai choisis. Aval Bishmi shel Yudke, avec mon nom de tétragramme, Asher Boni Akol Ove, et c'est avec ce nom-là que tout a été créé, Lonodati Laem, Livro Laem, Chadashut, Bishinui Atolada. Ça, il ne s'est jamais. J'ai même jamais fait des choses comme ça pour les Avot. Donc, dis au Bnei Israël, Ani Hashem. Dis-leur au Bnei Israël. Todia lahem, pas macheret, Hashem agadol. Kibo, Ani osei, maem lafli. Dis-leur, je vais faire pour vous des choses extraordinaires. Viedou ki Ani Hashem, osekol. À ce moment, ils sauront que moi, Hashem, c'est moi qui fais tout. C'est-à-dire, maintenant, au début de cette époque, de Nissim Glouim, de miracles qui vont aller contre les lois de la nature. Les Makot, c'est contre les lois de la nature. Le bâton va devenir serpent et le serpent redevient bâton. Et on casse les lois de la nature. tous les nissim qui ont été faits pour Paro, tout ça, c'est des nissim visibles, gluim, galoï. C'est-à-dire en rupture par rapport aux lois de la nature. Donc tout ça, ça se fait avec le tétragramme, pas avec le nom Shakai, seulement avec le tétragramme. Alors le Ramban dit tout ce qu'a dit le Rabbi Avraham ben Ezra, Binyanze, et là chez où Kemitnave ben Oyodea. Il dit, ce qu'il a dit, c'est parfaitement juste. Mais étant donné que Rabbi Avraham ben Ezra n'est pas un kabbaliste, le Ramban, lui, il est oui un kabbaliste, alors il dit, Rabbi Avraham ben Ezra, il est Kemitnave ben Yoder. Comme s'il prophétise, mais il ne sait pas ce qu'il dit. Il ne se rend pas compte de la profondeur de ce qu'il est en train de dire. Il ne comprend pas vraiment le pourquoi des choses, mais il le décrit parfaitement bien. C'est-à-dire, voilà, c'est comme ça. Rabbi Avraham ibn Ezra, c'est un grand racham. Il a réussi par sa chorma à trouver beaucoup de choses. Mais en fait, a priori, nous, on sait tout ça, Kabbalah. Et donc, il va jusqu'à dire que Ibn Ezra, c'est bien, mais il ne sait même pas ce qu'il dit. Il dit juste, mais il ne sait pas. Il est inconscient de la portée, de la profondeur de ce qu'il est en train de dire. La Derech HaEmet, mais selon la Kabbalah, Ba Katuv Kipshuto Mashmao, le verset, il vient dire les choses qu'il faut prendre comme telles. Yomar Ani Hashem, c'est-à-dire, moi, Hachem, au Avod, je me suis montré sous la forme Kel Shakai. Le nom divin tétragramme, il coiffe tous les autres noms. Et tous les autres noms sont les sous-noms de ce nom-là. Donc, il dit, moi, Hachem, je me suis montré au Bnei Israël, au Avod, sous la forme du Kel Shakai. C'est-à-dire, Bemare Elav et Vada, Ve Oti Ani Hashem, l'onodatilaim. Mais moi-même, je ne me suis pas vraiment dévoilé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vraiment vu, ils ne sont pas capables de voir les choses, Bespaklaria Meira, ils ne voient pas les choses véritablement, ils ne voient que flou. C'est-à-dire, en fait, le dévoilement de la présence divine qui a eu lieu chez les Avot, c'est une vision, va'era, il dit, je me suis donné à voir. Et chez Moshe Rabbeinu, c'était une yedia, une connaissance. Yadao Hashem panim el panim. Akadosh Baruch Hu, il s'est fait connaître à Moshe Rabbeinu face à face. C'est-à-dire, face à face, ça veut dire de façon absolument claire. Les Avot, ils ont vu, mais c'était flou. Lui, il voit, Moshe, il voit, c'est complètement clair. C'est ça le fait que les Avot, ils n'ont pas vu de façon claire, et que quand Hachem leur parle, c'est ce qu'il appelle, le Ramban appelle ça Din Rafa. Alors que, avec Moshe Rabbeinu, Vivada Bemidat Arachamim, Sheou Mishmo Agadol. C'est-à-dire, quelque part, avec les Avot, il a fonctionné avec la Midat Adin. Et avec, donc, quelque part, c'est une Mida, c'est seulement la partie rigoureuse. Hachem, ça correspond à la Rachamim, ça correspond à la tendresse, en fait, à une relation privilégiée et complète avec Hachem. Donc, c'est une façon de, avec Moshe, quand même beaucoup se donne à voir avec cette mida de Rachamim, qui est c'est le tétragramme, c'est le grand nom. Et c'est marqué que, c'est pour ça que, Moshe Rabbeinu, il n'utilisera plus jamais le nom Kel Shakai, parce que Hachem, Avec lui, Hachem fonctionne de façon absolument claire et pas de façon floue. La Torah, Bishmo Agadol Nitna. La Torah, elle a été donnée avec le grand nom d'Hachem, pas avec El Shaddai. C'est pour ça qu'il dit, Minashamaim Ishmiacha, et Kolo, Liasreka, Vela, Sareka, Tacher, et Isho Agdola. J'ai déjà expliqué ça, dit Ramban, sur le mot Shamaim. Ça veut dire, le Rachamim, la Mila de Rachamim, dit Ramban, il appelle ça Tiferet, la splendeur. La Shamaim, les cieux, c'est Rachamim. Le Pnimiut, Zenikra, Shamaim. Donc, son intériorité, c'est Shamaim. Masharamban l'appelle Bilata Din Rafa. Pourquoi il appelle ça Din Rafa, alors que c'est Shamaim? Din Rafa, ça veut dire le Din, mais un Din un peu adouci. Comme ça qu'on dit la Bilata Din Rafa, on dit ça du deuxième jour de Rosh Hashanah. Le premier jour, c'est Din Kachet, et après, c'est Din Rafa. Dans la Pnimiut, en vérité, ça s'appelle Eretz. Comme on dit, Minashamaim Ishmiacha et Kolo, ça c'est Matan Torah. Du ciel, il a fait entendre sa voix, c'est Matan Torah. Shenitan Laem, et là, la Torah, elle leur a été donnée, Aspaklaria Meira, c'était absolument clair. Pendant ce laps de temps où la Torah leur a été donnée, au Bnei Israël, ils voyaient aussi clair que Moshe Rabbeinu. Et Galares Areka, et Asher, et Isho Agdola, mais sur la terre, c'est-à-dire de la même manière que Vaera et l'Abraham, c'est Zui Madrega, chez l'Aspaklaria, chez Enameira. C'est-à-dire, ils ont vu de façon floue les Avot. Donc, pourquoi est-ce qu'Hachem a parlé au Bnei Israël de façon absolument claire? Hachem l'a dit. C'est pour qu'ils aient confiance en moi et en toi aussi. Ils ont expérimenté comment toi tu vois. Et donc, ils comprennent que, voilà, quand tu leur dis que ça, ils savent que c'est vrai. C'est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté, en fait. Et tout ça, c'est, en fait, inclus dans la Torah, dans les remontrances que Hachem a faites à Moshe Rabbeinu d'avoir dit: pourquoi est-ce que tu m'as envoyé alors que toi tu n'as pas sauvé le peuple? Il a dit, voilà, les avots, ils ne sont pas arrivés à ton niveau de prophétie. Eux, ils ont eu confiance. Eh, mais Minou, c'est ce qu'il a dit plus haut. Quand on est dans le flou, qui étaient les avots, les promesses, c'est flou encore, c'est pas encore réalisé. Dans ce cas-là, effectivement, il faut Emouna. Donc, c'est la grandeur des Avot. Les Avot, pour les Avot, il n'y avait pas tellement de, il n'y avait pas de dévoilement. Avraham Avinu, il est devenu Maamin seulement parce qu'il a réfléchi. Et la nevoua, il est arrivé quand il avait 75 ans. Jusque-là, il n'avait pas de prophétie, Abraham Avinu. Il est arrivé à la Emouna, à la reconnaissance de la nécessité d'un créateur. Il y a un créateur. En réfléchissant sur le monde qu'il voyait, etc., il a décidé qu'il devait y avoir un créateur. On pourrait dire que, d'une certaine manière, c'est encore plus grand. Parce que malgré le flou, il a reconnu le Créateur. Mais le niveau de celui qui a le niveau de neveu de prophétie le plus élevé, c'est quand même encore plus grand. Et bien que avec les Avot, tout était Nes Nistar, c'était des miracles, mais pas ouvertement, c'était dans le flou. Malgré tout, ils n'ont jamais rien protesté, ils n'ont pas protesté. Toutes les épreuves, etc. Et il dit, voilà, malgré tout, voilà, c'était la grandeur des Avot. Toi, je t'ai montré, Ramban explique bien, voilà, les différences de niveau, de Hanagot, de façon de gouverner le monde, qui sont complètement différentes entre Moshe et les Avot. Et quand même, Moshe, c'est encore plus grand. Moshe, c'est plus grand, bien qu'on pourrait dire que d'avoir réussi à reconnaître le Créateur dans le flou, c'est encore plus grand, mais c'est quand même plus grand. La neuf voix, quand Hachem parle, c'est le summum. Voilà ce que je voulais rapporter sur le parashat Vayera.